s'il est qui danse, s'il est qui chante, s'il est ma ta bonne humeur m'enchante.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma et réciproquement. Notre programmateur musical du jour est un réalisateur de documentaires, lesquels riment tantôt avec politique, tantôt avec musique notamment. Dans un premier temps, il a filmé une scène de classe en Bavière et voulu Paris à tout prix. Puis, tour à tour, il s'est penché sur la France des communistes, celle des socialistes, des homosexuels, des juifs, des résistants et même celle de deux Georges Marchais et Fraîche, sans oublier Hollande et Piccoli. Il s'est également penché sur Le Monde, le journal. Grâce à lui, il y a eu un après à Saint-Germain-des-Prés et ses cabarets. Et c'est à Gabin qu'il a consacré son plus récent portrait. C'est dire si le ciné qui chante, lui, ça le connaît. Aujourd'hui, nous recevons le documentariste Yves Gelan. Au cours de sa promenade musicale enchantée, nous écouterons avec et grâce à lui, Barbara.
Quel joli temps se dire au revoir.
Gabin.
Elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux.
Et Luma.
Luma sur tous les chemins, Luma dans toutes les mains.
Trois petites notes de musique et bien d'autres à venir.
Laurent Delmas présente Ciné qui chante sur France Inter.
Enchanté Yves Gelan et bienvenue.
Merci.
Yves Gelan, dans quel film de fiction pourriez-vous vivre ? Soupir. Perplexité.
Oh, très spontanément, je dirais chantant sous la pluie. Voilà, quand même, y a pas, on ne peut pas rêver mieux.
Que de chanter sous la pluie.
Oui, et puis que de vivre dans ce film, quand même.
Certes. C'est,
oui. D'ailleurs, comme j'ai pas choisi de chanson issue de Singing in the Rain, alors disons tout de suite chantons sous la pluie.
Très bien. En revanche, pour votre premier choix, vous avez décidé de nous faire écouter presque la chanson de cette émission. Et on vous en remercie parce qu'au fond, on l'écoute tous les jours, mais dans un tout petit extrait. Et là, grâce à vous, on va l'écouter dans son intégralité. C'est cette fameuse chanson extraite du film de Jacques Demy, Trois places pour le 26, que Agnès Varda notamment a bien voulu nous prêter en quelque sorte pour notre générique. On le remercie encore ici avec ses enfants également. Ciné qui chante, Yves Montand. Dans cette comédie musicale qui n'est pas forcément la plus connue et la plus aimée de Jacques Demy.
Oui, je pense que c'est pas le meilleur Demy, c'est pas non plus le meilleur Montand, mais c'est la première fois que ces deux-là se rencontrent. Il a fallu attendre c'est le vrai. Dernier film de Jacques Demy pour qu'il y ait cette rencontre donc entre Montand et Jacques Demy. Elle a pas eu de succès. Et je pense d'ailleurs que cette chanson, si le film avait eu le succès de, des Demoiselles de Rochefort, par exemple, cette chanson aurait pu être une chanson culte, parce que c'est une chanson dont l'air reste dans la tête. Hein, on appelle ça les chansons velcro ou les vers d'oreille. Et donc on a vraiment cet air dans la tête. Je pense que c'est une chanson magnifique. On va l'entendre en entier parce qu'on est toujours frustré de l'avoir au tout début dans le générique et puis qui la connaît par cœur. Je continue à chanter souvent quand j'écoute votre émission. Et c'est à la fois un hommage aux comédies musicales, un hommage aux chansons dans les films. C'est comme une profession de foi de Jacques Demy. C'est pour ça que c'est émouvant aussi. C'est son dernier film et on entend cette chanson différemment. Je dirais que c'est une profession de foi autant pour Demy que pour Yves Montand.
Qui vient de là.
Et par ailleurs, c'est aussi un film sur la vie de Montand. Donc, ça aurait pu être l'équivalent de Moi j'aime le musical de Charles Trenet par exemple. Donc écoutons-la attentivement, je pense que c'est une très belle chanson. Le film n'a pas eu le succès, c'est effectivement pas le meilleur film de Jacques Demy, mais moi c'est une chanson qui m'est très chère, elle est magnifique.
Parole Jacques Demy, musique Michel Legrand.
Ivo, tu rêves.
C'est vrai que je rêvais. Je passais le plus clair de mon temps au cinéma Le Star. Le Star se trouvait entre la rue Paradis et la rue Saint-Ferréol. C'était le seul cinéma de la ville qui projetait les films en version originale. Et toutes les semaines, j'avais rendez-vous avec toutes les stars de Hollywood.
Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. Ciné rieur, ciné bonheur, cinématographe à toute heure permanent. Ciné cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le musical. Cinéma, tu m'as tout appris. Grâce à toi, j'ai perdu l'esprit. J'ai été pauvre, j'ai été roi. J'ai vécu mille vies à la fois. Cinéma, tu m'as tout donné. Tant de fois, tu m'as fait rêver. J'ai connu l'amour, la beauté, le luxe, le calme, la volupté. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ciné rien, ciné bonheur, cinématographe à toute heure permanent. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly. Ciné joyeux, ciné blagueur, cinéma qui vous va droit au cœur.
I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you.
Ciné, roman, ciné qui ment, cinéma fait pour plaire aux amants. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ciné, penseur, ciné sérieux, le cinéma c'est contagieux. Ciné, suspense, ciné mystère, moi c'est le musical que je préfère. Cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le musical.
Ivo, tu rêves encore.
Yves Jolland, Yves Montand, ça pourrait être, avec Gabin aussi, mais la figure emblématique de votre œuvre, c'est-à-dire cet ex-communiste, chanteur, acteur de cinéma, enfin vraiment avec un destin qui traverse le siècle.
Il est quasiment dans tous mes films,
ouais.
Mais je ne lui ai jamais consacré
non, c'est vrai.
Un documentaire.
Ça viendra peut-être.
C'est pour moi une figure tutélaire, donc qui ça date de l'adolescence, ça date de l'Olympia 81, de ce double 33 tours que mes parents m'avaient offert. Et oui, il est quasiment dans tous mes films, même dans le film de Gabin, j'ai réussi à le mettre 3 fois alors qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Dans Il est minuit, Paris s'éveille, qui raconte l'histoire des cabarets de la rive gauche. Il n'a jamais fait les cabarets, il arrive 6 fois dans le film, de manière parfois subliminale. Il faut le repérer. Mais c'est vrai que je évidemment, dans le film Camarade, même dans le film Chéri socialiste, enfin... J'ai réussi à le mettre dans le générique de fin de Paris à tout prix avec À Paris de Francis Lemarque. Donc, il est un peu partout, mais
peut-être que vous ne ferez jamais un documentaire sur lui.
Peut-être que je l'aime trop. Enfin, on verra. Il faut jamais dire jamais, mais il faut aimer les gens qu'on aime, mais il faut peut-être pas les aimer trop. Je sais pas. Ou alors, il faut que je cherche l'antidote. Voilà.
Alors celui-là, vous me direz que certainement que vous l'aimez aussi, et on vous comprend, c'est Charlie Chaplin, avec un extrait d'un film de 1928 qui s'appelle Le Cirque. Mais au fond, c'est pas un extrait réellement du film de 1928, parce que c'est, et vous allez nous le raconter, en 1928, c'est un film muet. Or, vous allez nous faire écouter une chanson d'un film muet. Ça, c'est costaud.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de films de Chaplin qui sont des films muets, mais qui sont des films sonores. Et donc c'est pas des films parlants, certes, mais ce sont des films sonores. Et très vite, Chaplin va superviser les musiques et même le au bout de, pour les longs métrages, en tout cas, les bruitages de ces films. Et donc là, effectivement, le cirque, c'est un film que longtemps il interdira la sortie parce que ça correspond pour lui dans sa vie à des souvenirs assez. Le tournage a été éprouvant. Bon, et c'est à la fin des années 60, alors je sais plus exactement si en 67 ou en 70. Qu'il décide de...
C'était bien 69, vous étiez entre les deux, voilà.
De ressortir le film, ouais. Et de composer une musique originale et d'enregistrer la chanson qui sera la chanson du générique début. Je crois qu'au début, il devait le confier à un autre chanteur et puis finalement, il décide que ce sera lui qui chantera cette chanson. C'est très émouvant quand on écoute les paroles. Je parle pas anglais, mais là, j'ai réussi à comprendre à peu près, qu'on connaît la vie de Chaplin, et c'est d'autant plus émouvant d'entendre sa voix qu'on a si peu entendue, et là c'est la voix d'un presque octogénaire qui chante, et qui chante magnifiquement Swing Little Girl, et on voit sur le générique cette écuyère là se balancer sur un trapèze, et lui dit « Oui, petite fille, balance-toi ». Mais regarde en l'air, regarde devant, mais ne regarde pas le sol, ne regarde pas la foule ou le public.
Charles Chaplin au micro.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky, but never, no, never look down.
Yves Geland, vous me disiez hors micro que c'était l'objet de votre prochain documentaire, Monsieur Chaplin.
Oui, j'ai cette chance inouïe avec François Aimé.
Qui vous avez déjà fait Gamin.
Exactement.
Pour François.
Voilà. Et donc on repart avec la même équipe, avec François, avec Sylvie au montage, France 3 également, Cuivre Productions, et on repart pour une grande et belle aventure. J'espère, en tout cas.
Sacré pari, parce que qu'est-ce que, après tout, on peut peut-être dire, qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau?
Oui, c'est vrai.
Sur Chaplin, mais voilà, c'est le pari, quoi.
C'est toujours un pari, c'est toujours des regards différents. Oui, et puis, là, on va essayer de croiser nos subjectivités, puisque François Aimé, donc, est le co-auteur de ce film. Et là, pour l'instant, je commence dans l'ordre avec, à me plonger dans les, il y a une bibliothèque, sur Chaplin. Et je regarde tous les films avec un stylo dans la main. Et je commence par les tout premier court-métrage de la Keystone, et voilà, et François fait le même travail de son côté.
Ça fait
et on
un
va
siècle,
essayer de raconter une histoire.
Ça fait un siècle que Chaplin est une immense
oui,
star.
Oui,
c'est
oui,
une longévité incroyable.
Le personnage de Charlot né en 1914, voilà. Et il n'a même pas réalisé un seul long métrage, ouais. Que déjà en 1917 ou 1918, c'est, je crois, Louis de Luc, qui dit que cet homme est plus célèbre que Napoléon ou que Charlemagne ou que Jeanne d'Arc. Et effectivement, il l'est instantanément, grâce d'ailleurs au fait que ces films n'ont pas de langue maternelle, j'allais dire.
Universelle.
Donc il trouve ce langage universel et c'est un génie absolu. Je veux dire,
à un moment où la guerre est mondiale, c'est la première star mondiale en quelque sorte.
Oui, oui. Et donc on va essayer de raconter cette histoire justement avec l'histoire, la politique, et c'est les fils que l'on avait aussi essayé de tirer avec Jean Gabin, c'est-à-dire l'histoire de sa vie, l'histoire du cinéma et l'histoire du siècle.
Allez, ben Jean Gabin, voilà, on va s'intéresser à Jean Gabin, grâce à vous aussi, évidemment, avec cet extrait d'un film, bon, qui n'est pas forcément très très connu, qui s'appelle Cœur de Lila, d'Anatole Litvak en 1932, mais on y entend Jean Gabin chanter La Môme Caoutchouc. Je vous propose d'abord Gabin, et puis nous y reviendrons après.
J'ai une petite gosse extra, elle est tendue à perca. Élastique, vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en bride, à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou. Elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. La môme caoutchouc, avec elle, ce qu'on peut faire, oh, c'est fou. Elle vous prend et toc et toc, on n'est plus qu'une loque. Oh, c'est pas du toc, elle vous dit que la môme caoutchouc, c'est un lot, c'est un drôle de pibou. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. La môme caoutchouc, dans tous les encombrements, elle se glisse légèrement, elle se faufile, elle me sert de coupe-fil. Par contre, dans le métro, elle se gonfle les pectoraux. Je suis toujours certain de trouver un strapontin. Quand sa peau, j'ai marre, j'y dis, faut que tu te barres, pas moyen. Toujours elle revient, elle s'allonge, se prolonge, c'est un ressort à boudin. La môme caoutchouc, pour la voir, c'est pas comme du tout. Elle se gondole, elle se détraque, quel drôle de micmac. Moi, elle me fout le trac. Elle m'estomaque la môme caoutchouc. Je voudrais bien pouvoir en prendre un bout. Elle est encore couchée. Je m'approche. Elle est debout. La môme caoutchouc.
Laurent Delmas présente Ciné qui chante.
Yves Geland, les paroles de cette môme caoutchouc étaient de Serge Weber et la musique de Maurice Yvain. Ça donne, je crois, l'exacte mesure de ce qu'a été d'abord Jean Gabin, c'est-à-dire un véritable homme de music hall.
Oui. Ben les premiers films d'ailleurs, là c'est les tout premiers, on est en 31, 32, et les tout premiers films, quasiment dans tous les longs métrages où il est déjà en haut de l'affiche, on l'embauche parce que c'est un chanteur et parce que c'est un danseur. Et il va devenir acteur d'une certaine façon. Donc oui, il a hérité de ça de ses parents et de son père qui chantait aussi, Ferdinand Gabin. Et il a effectivement ces trois casquettes-là. Alors, on a écouté Chaplin avant. Lui, il était on ne le connaissait pas comme chanteur, mais lui, il était déjà danseur, acrobate, producteur, acteur, compositeur, puisqu'on l'a dit, hein, donc il composait des... Là, Gabin n'avait pas cette casquette de producteur.
Non.
Ni... Ah, producteur, il l'a été
avec
un
Fernandel,
petit peu
avec Fernandel.
Avec Fernandel. Voilà, mais en tout cas...
Comment on peut expliquer, justement, qu'il y a eu une sorte de rupture et pas de longévité de Gabin, un chanteur qu'on n'a plus entendu presque, sauf à la fin de sa vie où il a enregistré. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture? Est-ce qu'on le sait? C'est sa volonté?
Je crois que c'était sa volonté. C'est-à-dire qu'il adorait chanter. On m'a rapporté qu'il aimait beaucoup chanter, notamment sur les tournages, après les repas. Enfin, il aimait toujours pousser la chansonnette. On l'entend parfois de, je sais plus dans quel film, à un moment, souvent sous l'effet de l'ivresse, mais on l'entend chanter évidemment dans Le Singe à l'hiver. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça l'a pas, c'est quelque chose qu'il a un peu mis de côté. Effectivement, il avait voulu rester acteur seulement et on a pas beaucoup d'exemples, à part effectivement à la fin de sa vie, je sais, voilà.
Alors, autre grande voix de la chanson française, cette fois, c'est une femme et c'est votre nouveau choix, Yves Geland, c'est Barbara, dans une merveilleuse chanson qui s'appelle « Quel joli temps ». et que François Ozon, en 2001, a utilisé dans son film « Sous le sable ». C'est important, évidemment, ces utilisations de chansons qu'on aime dans des films, parce que immédiatement, c'est Barbara, je crois, qui disait que la chanson, ça ouvrait à la vie. Enfin, c'était la vie même, quoi.
Oui, a dit aussi Barbara, la chanson ramène chacun de nous à son histoire.
C'est ça.
Et ben voilà. Là, vraiment, alors ça ramène à l'histoire du film aussi.
Exactement.
Et cette chanson ramène à une histoire intime. Et j'ai revu le film ce week-end. Parce que je me disais, tiens, il faudrait quand même que je l'ai vu au moment de la sortie, oui, en 2000 ou 2001. On a l'impression que cette chanson a été écrite pour le film.
C'est ça qui est merveilleux.
Elle surgit au moment où on ne s'y attend pas. Elle devient comme un personnage du film. Et elle tombe pile. C'est dangereux, hein. Il a osé, parce que une chanson peut prendre trop de place, hein, aussi dans la narration. C'est le moment où on voit Charlotte Rampling dans un supermarché en train de faire les courses. On a l'impression que le temps est suspendu. Et c'est étonnant comme sentiment, c'est étrange, parce que c'est très émouvant. Vraiment, quand on va entendre cette chanson, déjà la chanson est très belle et elle donne de toute façon la chair de poule. Mais à ce moment-là du film, c'est un peu comme trois petites notes de musique a été écrite pour un film par Henri Colpi. On l'a entendu dans cette émission, chantée admirablement par Cora Vauquer. Ouais. Et elle a servi dans un autre film, le générique de fin de L'été meurtrier, chanté par Yves Montand. Et on a l'impression, en l'écoutant dans le film de Jacques Becker, c'est ça, L'été meurtrier, je crois.
Jean Becker, pardon,
qu'elle a été écrite pour ce film. Ouais, c'est-à-dire c'est qu'on entend trois petites notes de musique au générique de fin, dans la voix d'Yves Montand. Donc ça tombe pile, c'est la chanson parfaite. Écoutons-la peut-être.
Et écoutons la chanson parfaite de François Ozon, ou de Barbara plus précisément, dans Sous le sable, avec d'abord la voix de Charlotte Rampling.
Tu peux vous poser une question?
Allez-y.
Si on était mariés, vous me tromperiez?
Mais non, sûrement pas. Bon, je vais y aller.
Déjà?
Oui, il faut que je me dépêche. Vous claquez la porte derrière vous, d'accord?
Oui. Dépêchez-vous, on était en retard.
Je suis content que vous soyez venu.
Se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir, quel joli soir jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête.
Merci, au revoir madame.
violent. Qu'est-ce que serait la vie sans les chansons de Barbara?
C'est vrai qu'elle elle est devenue indispensable. Enfin, on l'écoute tous les jours. C'est une artiste qui a eu la chance d'avoir tout au long de sa carrière et encore aujourd'hui un public de tout âge, mais vraiment, c'est-à-dire on le voit dans des documentaires, on le voit dans le magnifique film qui est documentaire de 1973
de Guy Job.
Pas celui de Guy Job, c'est pas non plus celui de François Reichenbach.
Alors je pourrais pas vous aider.
C'est celui qui a servi à Mathieu Amalric
pour son
très beau film Barbara. Mais ça va me revenir, de Gérard Vergès, voilà.
Bravo.
Le film de Gérard Vergès, et on voit le public, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés après la mort de Barbara et qui l'écoutent tous les jours.
C'est vrai.
Donc, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues.
Belle citation. Alors, nous quittons un peu la poésie pour en arriver à l'un de vos dadas, si je puis dire, qui est la politique. Qui est la vie de la cité, hein, comme on dit un peu maintenant, et vous avez eu un choix, je trouve très très singulier et très intéressant parce qu'on l'a peu finalement abordé, qui est la chanson politique. Ici là, on peut dire la chanson de propagande, mais c'est pas, il y a pas de vu la chanson qu'on va entendre, je trouve que ça prouve qu'on peut faire de la propagande tout en faisant de la chanson et tout en étant dans une forme artistique tout à fait claire. D'ailleurs, la musique est de Jean Wiener, donc Jean Wiener, c'est pas rien, c'est un des plus grands musiciens de films français. Qui a travaillé pour Renoir, Daquin, Duvivier, Bresson, enfin, sa carte de visite parle pour lui. Les paroles sont d'un militant communiste toulousain, peut-être cher à votre cœur, vous êtes né à Toulouse, c'est Pierre Gamarra.
Je suis né à Carcassonne.
Carcassonne, pardon. Oh, je vais me faire des ennemis.
C'est mes grands-parents qui sont de Toulouse.
Bon, Carcassonne, pardonnez-moi, je suis désolé. Mais tout ça pour dire que cette chanson qui s'appelle La valse de l'Huma, qui est dans un film, un vrai film, mais qui raconte la vie du journal L'Humanité, mais qui est évidemment fait par des communistes et on va dire un peu pour des communistes, c'est-à-dire qui est dans une économie de propagande, de communication politique, dirait-on aujourd'hui. Et en même temps, cette chanson existe vraiment.
Oui, c'était la force de frappe du Parti communiste de l'époque, était le premier parti de France, comme on avait l'habitude de dire. Mais effectivement, c'est un film qui est très savoureux, qui n'est pas un très grand film. Il est aussi savoureux que stalinien.
Et, c'est une bonne définition.
Et il date donc de 1954.
Oui,
c'est pour fêter le cinquantenaire du journal L'Humanité.
Le film s'appelle La Terre fleurira. Tout un programme.
Voilà, La Terre fleurira. Et donc, le Parti communiste faisait appel à des grands réalisateurs, souvent. Il y a un film qui date à peu près de la même époque, pour les 70 ans du camarade Staline, s'appelait « L'homme que nous aimons le plus ». Et le texte est écrit par Éluard, et dit par Éluard. Mais c'est pas rien, mais c'est pathétique. Enfin, quand on écoute, mais c'est très drôle aussi. Et il y avait donc souvent les réalisateurs qui signaient par une équipe de réalisateurs communistes qui souvent travaillaient à l'ORTF et qui signaient anonymement. Donc, si on peut signer anonymement. Et donc là, effectivement, Jean Wiener, qui était très souvent au générique des films du Parti communiste, comme Roger Desormières, je crois, qui dirigeait, il me semble, l'orchestre. Et là, c'est une sorte de docu-fiction. Alors, avec comme fil conducteur le vieux Marcel Cachin,
dirigeant historique, dirigeant l'Humanité,
quelques années plus tard. Et ça se termine effectivement par, ça commence et ça se termine par une valse, la valse de l'Huma. Et comme c'est un docu-fiction, on voit à la fois Étienne Fajon, qui est le directeur de l'Huma de l'époque, Marcel Cachin, qui est octogénaire et qu'on voit danser, et aussi des comédiens. Et on voit à côté de Marcel Cachin, Paul Prébois, en train de danser la valse de l'Huma.
Allez, l'Huma, demandez l'Huma.
Demandez l'Humanité dimanche.
Un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy. Un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance. L'Huma sur tous les chemins, l'Huma dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin, il y a le blé et le vin. Il y a la laine et la lin, et l'Huma dans
dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison, un salut au fil d'une chanson, du soleil au carreau des fenêtres. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère, l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain.
Demandez l'humanité dimanche. Demandez l'humanité dimanche. Bonjour. Voilà. Moi, pourquoi je la vends? Parce que c'est l'humain. Oh, c'est une vieille histoire. C'est une histoire d'il y a 25 ans. Ouais. Je suis un des premiers, un de ceux de 1929. Seulement, pour la raconter, cette histoire-là, moi, j'en connais qu'un. Parce que lui, l'humain, il l'a vu naître. C'est Marcel. Marcel Cachin.
Bon, Yves Jolland, nous n'aurons pas le temps, hélas, d'écouter Marcel Cachin. Mais ceci dit, le film est tout à fait visible légalement sur la plateforme du ciné-ressource du Parti communiste.
Ciné-archive.
Ciné-archive, voilà, exactement. Et vraiment, je vous conseille de voir ce film parce que c'est un bel objet en soi.
Il existe en DVD aussi.
Chez les Mutins de Pangée, peut-être, c'est ça ou...
Je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, le ciné-archive, qui est place du colonel Fabien, et qui a ressorti tous ces films, alors que pendant toute une époque, le Parti communiste ne voulait pas montrer du tout ses productions de l'époque stalinienne.
Alors, on reste, si vous voulez bien, dans le domaine politique, avec cette fois non plus un communiste, mais un socialiste. Mais alors, quel socialiste, hein? Socialiste montpelliérain, voilà, c'est une race à part, un petit peu, une sorte d'autocrate génial. De puits de science sans fond qui avait même atomisé Paul Venn, président de son jury, parce qu'il lui avait démontré l'étendue de sa science et qu'elle est historique notamment et qu'elle était incroyable. Bref, je veux parler de Georges Frêche, qui a été donc très très longtemps le maire de Montpellier et à qui vous avez consacré un documentaire au titre à la fois mi-ironique, mi-lucide et réaliste qui s'appelle Le Président. Parce que c'était le président. Enfin,
tout le monde l'appelait président.
Localement, tout le monde l'appelait président. Voilà, il se serait rêvé en ministre et peut-être même encore plus, certainement en destin national. Et vous lui avez donc consacré à cet ogre, cette espèce d'ogre méridional, un portrait tout à fait savoureux. On le voit notamment manger ses post-it qu'il a écrits pendant une réunion au motif qu'il faut que personne ne les trouve pour éventuellement pouvoir lire ce qu'il a écrit dessus. Donc il les mange. Et puis il a une autre activité aussi, c'est qu'il adore chanter.
Oui, il chante faux, mais il adore chanter. C'est bien le problème.
C'est le lot de beaucoup d'entre nous.
Et c'est vrai que il y a des chansons dans tous mes films, mais moi j'alterne entre les documentaires d'archives, on dit que le documentaire c'est le cinéma du réel, donc je m'intéresse autant au réel d'aujourd'hui qu'au réel d'hier. Donc dans le réel d'hier, effectivement, la chanson est importante parce qu'elle fait partie du patrimoine collectif, de la mémoire affective du pays. Là, quand je tourne des films sur le réel d'aujourd'hui, c'est-à-dire en cinéma direct, comme ce film-là, c'est-à-dire des films qui sont souvent sans commentaires, sans entretien, sans archives, c'est parfois plus difficile de placer des chansons. Et là, j'avais quelqu'un qui, je pense que on l'a pas fait, mais quand le film est sorti au cinéma, on aurait pu sortir un album, la BO, ça aurait été les chansons interprétées par Georges Frêche. Et il adorait ça. Et donc, je crois que dans le film, on en a gardé que quelques-unes, mais il doit y en avoir 5 ou 6, où il chante essentiellement dans sa voiture, mais pas seulement, tout un tas de chansons, d'un répertoire plutôt ancien, pour mon plus grand plaisir, mais pas toujours pour celui des oreilles, en tout cas de ceux qui ont la note juste.
L'extrait choisi, justement, là, il chante en meeting, et il s'adresse au fond à une partie relativement importante de son électorat, en tout cas l'électorat montpelliérain, qui sont en fait les pieds noirs, évidemment, importante communauté dans cette ville.
Je vous demande d'applaudir très fort, monsieur Georges Offrèche.
Vous avez tout perdu. Vous avez ouvert votre valise, il ne vous restait qu'une chose, le courage. Parce que, je le répète pour la énième fois, tout le monde parle de colonialisme, mais arrêtons bien sûr que le colonialisme s'est terminé. Mais on n'est pas plus coupable que d'autres. Alors, nous ne sommes pas parfaits, nous les Français, mais quand même. Je vous remercie d'être venus. Et on va terminer par une chanson. On va chanter ensemble avec Marlène le chant des Africains, mes frères. Allez-y.
C'est nous les Africains qui revenons.
Campagne, il faut continuer, il faut pas se débander, il faut continuer à être focus. Mabrou, je l'aime. Revol, je l'aime. Parce que j'ai une faculté de j'ai l'air d'un honnête homme.
De gauche, quand même.
Mon problème, c'est pas d'apparaître comme un homme de gauche. Si après 40 ans de fidélité à la gauche, je suis pas perçu comme un homme de gauche, c'est qu'il y a des connards. Et ou alors que je suis très habile. Je pencherai pour la deuxième solution.
Yves Jolland, nous resterons encore un petit peu avec vous en terre véritablement politique, même si la chanson que nous allons écouter n'est pas une chanson politique, c'est une chanson plutôt, on va dire, folklorique, qu'on entend dans le film Z de Costa Gavras en 1969. Elle est chantée par Maria Farantouri. Mon grec est un peu abominable. To Palikari Eki Kaimo, c'est le titre de la chanson que vous avez choisi. Cette chanson, on l'entend dans une scène du film, sur un jukebox, c'est-à-dire c'est vraiment une chanson, au fond elle est là pour notamment dire, attention, ce film qu'on ne sait pas où il est censé se dérouler, ça c'est la doxa, il se déroule en fait en Grèce, et la chanson est en grec, et c'est un des marqueurs qui fait que on sait qu'on est en Grèce, on sait qu'on parle des colonels, alors qu'effectivement le film ne le dit pas explicitement.
On sait que le réalisateur est grec, et on sait que le compositeur de la musique est grec également.
Theodorakis.
Oui, ça nous ramène aussi à Yves Montand. Et j'ai pas revu le film depuis longtemps, mais effectivement j'ai le souvenir avec cette chanson, les images qui me viennent, c'est Marcel Bozzuffi en train de jouer du flipper.
Très mauvais garçon dans le film.
Oui, mauvais garçon. Ouais.
Très mauvais garçon.
Qui a des façons pas très catholiques.
Voilà, exactement.
Oui, c'est un film qui est cher à mon cœur, comme le sera L'aveu. Et voilà, donc c'est aussi une rencontre pour moi avec Montand. Et cette chanson, je l'ai écoutée beaucoup sur un 45 tours où il y avait 4 titres de Z et de cette musique originale et voilà, elle me touche beaucoup et ça permet aussi d'entendre une autre langue que le français et puis une voix féminine aussi.
Allons-y.
Χάρη έχει καημό και εγώ στα μάτια το κοιτώ.
Que toqui doque de Milo. Χωρίς δουλειά και ξοχιώνει η γεφυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά. Απόψε, απόψε το δάκρυ του κιλά. Απόψε, απόψε το δάκρυ του κιλά. Έχει καημό, μα όταν κοιτά τον ουρανό, τα μάτια του είναι δυο πουλιά. Απόψε, απόψε μου σχίζει η καρδιά. Απόψε, απόψε μου σχίζει η καρδιά.
Laurent Delmas présente Ciné qui chante.
C'est grâce à vous, Yves Jelan, qui êtes notre programmateur musical du jour, que nous écoutions Maria Farantouri dans cette chanson extraite, évidemment, de la BO du film Z de Costa Gavras en 1969. C'est bien aussi d'écouter d'autres langues, vous le disiez, voilà, du grec, pas seulement de l'anglais, pas seulement du français, mais du grec, c'est très bien. Donc merci à vous de ce choix. Alors là, on va entendre du français, et puis du français ciselé. Du français ciselé par deux orfèvres, Charles Trenet et Francis Blanche, hein. Il faut bien écouter les paroles. C'est une chanson difficilement chantable, tellement à la fois ça va vite et ça joue sur les allitérations, sur les consonnes, les voyelles, etc. Débit de lait, débit de l'eau. Nous sommes dans le film La cavalcade des heures d'Yvan Noé en 1943. Je ne crois pas que ça soit un film qui a marqué l'histoire mondiale du cinéma. Mais par contre, cette chanson, effectivement coécrite par Trenet et Francis Blanche, elle est marquante.
Oui, on se dit d'ailleurs que peut-être que Bobby Lapointe ce fut une de ses inspirations, que cette écriture-là, il y avait les prémices déjà de ce qui allait se passer un peu plus tard dans
c'est
les années.
C'est du niveau de Takati Takité.
Oui, bien sûr. Oui, et effectivement, c'est pas forcément les meilleures chansons sont pas forcément dans les meilleurs films, on va dire ça comme ça.
C'est clair. Vous voulez qu'on l'écoute tout de suite ensemble?
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé. Mais on maudit le long débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby. Aussi Babé ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons. Les bidons d'eau sont débits, allez donc. Les bidons d'eau sont débits, allez donc. Les bidons d'eau sont débits, allez donc. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Les v'là tous deux en ménage, le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc, et chacun dit en y allant: à qui les vole le débit de lait? Oh, quel palais le débit de l'eau! Débit de lait si beau, débit de l'eau, papa lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau, et la Babé de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé.
oui, mais Bobby garde pour lui le plus beau bidon de lait de la babe jolie. Maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. Chez Bobby, chez Babé, allez donc.
Ce soir, tu t'es surpassé.
Quel talent.
Et cette chanson.
J'ai téléphoné à votre valet de chambre. Ce soir, je dînerai avec vous. Ah. Vous permettez.
Oh, quelle jolie robe, elle est merveilleuse.
Elle vous plaît.
Elle vous va bien.
J'ai commis une indiscrétion.
Non.
J'ai téléphoné à votre valet de chambre. Attends.
Oui, justement, je suis très fatigué. Je vous demande la permission de me retirer.
Yves Geland, l'argument du film d'Yvan Noé, La cavalcade des heures en 1943, je vous le donne quand même. La déesse romaine du temps, Hora, se présente devant les hommes et femmes pour les aider à prendre conscience du temps qui s'écoule. Comment est-ce que la chanson de Traîner s'insère là-dedans? Franchement, c'est quand même assez costaud. Bref, c'est un nanar, mais c'est un nanar effectivement dans lequel on entend cette perle.
Oui, encore une fois, c'est la preuve qu'il peut y avoir des chansons épatantes dans des films qui ne le sont pas. Et je crois que Traîné partage l'affiche avec Fernandel, Gaby Morlaix, Charpin.
Oui, absolument.
On est en 1943.
Jeanne Fugier-Gir également, merveilleuse Jeanne Fugier-Gir. Oui.
On est en 1943 et à ce moment-là, Gabin, de l'autre côté de l'Atlantique, s'apprête à rejoindre les forces françaises libres.
C'est un bon rappel. Dites-moi quand même, Traîner, ce serait un formidable sujet de documentaire. Non,
oui. Oui, je suis né pas très loin de Narbonne.
Et oui, en plus, c'est un natif.
Et c'est, non, j'ai une passion pour Traîner, qui n'égale pas celle de mon temps, mais presque. Et peut-être un jour, il y a déjà eu de beaux films. Je sais qu'on est plusieurs réalisateurs à vouloir se disputer Charles Traîner.
Comment est-ce que ça naît comme ça une envie de dire tiens j'ai envie de m'intéresser à tel ou tel chanteur acteur. C'est quoi, c'est une presque une nécessité, ça devient à un moment une nécessité de...
Oui, ça naît pour moi ça naît dans l'enfance, donc ouais. C'est une flamme qu'on a à l'intérieur, on le sait. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut vous proposer des films. Moi, parfois, on me demande, mais est-ce que c'est un film de commande? Alors, j'ai l'habitude de répondre, non, on ne me commande jamais. Mais,
c'est pas infamant non plus.
Mais parfois, c'est vrai qu'il y a certains films, par exemple, Jean Gabin, c'est François Aimé qui me l'a proposé. Michel Piccoli, c'est le producteur Michel Rottman qui me l'a proposé. Et il peut y avoir, dans ces propositions, des films qui deviennent très personnels, parfois très intimes. Mais bon, on le sent tout de suite, hein, de toute façon. Il y a des films, puis il y a des films qu'on n'arrive pas à faire. J'ai voulu faire un film sur Mouloudji, personne n'en a voulu. Donc, voilà.
Quel dommage.
Un jour peut-être.
Un jour tu verras.
Un jour tu verras.
Bien entendu.
Bravo.
Merci. Allez, on passe à un autre choix de votre part, qui est un film qui s'appelle Romance cruelle de Heydar Riazanov en 1984 et dans lequel on entend Nikita Mikhalkov. Oui. Le grand cinéaste russe chanté.
Oui.
Vous nous en dites un peu plus sur cette chanson, ce film et ce choix surtout.
Alors ça, c'est je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un film que je n'ai jamais vu.
C'est
d'ailleurs assez étonnant, c'est-à-dire que ça fait 25 ans que je me nourris de musique tzigane et yiddish, notamment grâce à Eric Slabiak qui a composé beaucoup de musique de mes films et qui lui chante en yiddish, chante en tzigane et il m'a fait écouter ce disque que j'ai écouté en boucle.
Cette chanson
chanson notamment.
Ouais.
Et en écoutant cette chanson et en écoutant tout l'album, je me suis fait mes propres images. Je me suis imaginé, je sais pas pourquoi, des paysages d'Asie centrale avec des hommes dans des yourtes j'ai ces images en tête.
Et vous n'avez pas envie de voir le film.
Et j'ai peur de voir le film. J'ai peur de voir le film tellement j'aime cette musique. Ça me l'a fait pour un autre film. J'ai honte de dire que je ne l'ai pas vu.
C'est un
film de Stanley Kubrick où j'écoute ce disque depuis l'enfance. Et je n'ai jamais vu le film, c'est Barry Lyndon.
La bande musicale de Barry Lyndon,
et parce que je me suis fait aussi des images sur voilà. Donc parfois, un film, c'est une bande originale, et ça le reste. Et je n'ai jamais vu Romance Cruelle avec cette chanson qui pour moi est envoûtante.
Oui. Nikita Mikhalkov.
Ну что, Лариса Дмитриевна, вы не проголодались?
Проголодалась.
Не изволите ли отужинать со мной?
С удовольствием.
Тогда прошу в салон.
Правда, есть хочется.
Мохнатый шмель, на душистый хмель, мотылек на вьюнок луговой. А цыган идет, куда воля ведет, за своей цыганской звездой. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. Полосатый змей в расщели скал, жеребец на простор степи. А цыганская дочь за любимым в ночь по закону крови своей. И вдвоем под тропи навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.
Yves Jolland, la chanson s'intitule « Tzigan idiot », mais ça ne veut pas dire ce qu'on pourrait penser en français.
Oui, c'est « Et le tzigan va ».
S'en va.
Voilà, et c'est l'adaptation en russe d'un texte de Rudyard Kipling. Un ami, Franck Anastasio, m'avait traduit les paroles avant que j'arrive, mais je les ai pas là, sous les yeux, et je pourrais pas vous dire exactement ce que la chanson dit. Et parfois, d'ailleurs, c'est tellement agréable, comme pour la chanson grecque, d'écouter une langue étrangère sans forcément avoir la traduction.
Donc, vous êtes certain, vous ne verrez jamais Romance Cruelle de votre vie?
Non, je suis pas certain. Je suis pas certain de jamais réaliser de film sur Yves Montand, mais si, je le ferai peut-être, comme pour Barry Lyndon, mais c'est vrai que ça chassera certainement les images que j'ai en tête. Ouais.
Merci Yves Jolland, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager ces moments musicaux, certains très rares, vraiment, et puis certains comme ça, évidemment, toujours très reliés à votre vie. Alors merci à vous Yves Jolland d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale. Nos auditeurs parisiens, les Vénards, pourront voir ou revoir sur grand écran votre film « Camarades, il était une fois les communistes français » au Forum des Images le 30 septembre prochain à 15h dans le cadre du 30e anniversaire de cette très belle institution dédiée aux images et qu'il faut préserver. Et plus généralement, une bonne partie de vos films est évidemment disponible en DVD, notamment le très recommandable coffret de votre film « Il est minuit, Paris s'éveille », produit et édité par Lina, Zadig et Arte, avec plus, s'il vous plaît, de 4 heures de bonus épatant, comme on disait à l'époque. Allez, top générique. Cette émission a été préparée refrain et couplet par Mathilde Verfailly et Margot Page. Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin avec aux manettes de notre studio aujourd'hui Pauline Laverdure. Merci enfin à notre programmateur musical Thierry Saint-Germain-Dupin. On reste en contact via le podcast et franceinter.fr bien évidemment. Et nous, on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, en compagnie d'une nouvelle invitée enchantée. Indice tout de suite.
Ne dis rien, ne dis rien de plus.
Pour l'heure, après les infos, on retrouve Daniel Morin pour le best-of de Nagui et de sa bande.